Voilà, je me suis mélangé un petit peu les pédales avec les manettes. Bon, j'ai plus d'effet de surprise, mais c'est pas une surprise. On continue l'étude de la parole de Dieu, de la vie de David. Et aujourd'hui, nous voyons David dans l'adversité. J'espère relever le défi suivant de survoler les chapitres 18 à 26 et en plus le psaume 18. Donc ça va aller vite, je pense. Au chapitre 16 d'abord, on a vu que le prophète Samuel est venu oindre David comme futur roi d'Israël parce que Dieu a rejeté Saül. Au chapitre 17, David remporte un exploit retentissant face à Goliath. Mais au lieu de voir le trône confié à David juste après cela, le chapitre 18 ouvre sur une longue période où David doit faire face à la méchanceté, à la jalousie, à la trahison, il doit échapper à plusieurs attentats et finalement fuir la haine de Saül. Commence donc pour lui une longue période d'exil qu'on estime entre 8 et 10 ans. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas confié le trône à David après la victoire sur Goliath ? Pourquoi Dieu n'a pas renversé Saül après ses premiers accès de folie et tentatives d'assassinat? Pourquoi des années de souffrance pour David, Israël, avant finalement que s'accomplisse ce que Dieu a décrété depuis fort longtemps, savoir que David monte sur le trône d'Israël? Pourquoi toute cette période de tumulte, de souffrance? Vous vous demandez peut-être comme moi, pourquoi la vie n'est pas plus facile? Pourquoi l'Église doit connaître toutes sortes de turbulences, de situations difficiles, des tentatives d'assassinat? Quand même pas, mais... Enfin, pas ici. Pourquoi l'adversité est davantage la règle que l'exception dans la vie du chrétien? Et je vous propose de voir ce matin, au travers de la vie de David, que dans sa souveraineté, Dieu crée des situations qui nous permettent de mieux comprendre ses voies et de découvrir son secours remarquable, son dessein admirable et puis sa justice incomparable. Voyons comment Dieu a permis à David, au travers de ce temps d'adversité, de découvrir son secours remarquable. Alors je voudrais d'abord que l'on regarde très rapidement comment David a échappé à de nombreux complots et agressions. Et regardez, ça commence au chapitre 18. On a déjà vu ça la semaine dernière, mais je fais juste un petit rappel. 1 Samuel 18, verset 10. Je lis: le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même: « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui deux fois. Verset 17. Saül dit à David: « Voici, je te donnerai en mariage ma fille aînée Merab, mais sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait: « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Alors voilà une nouvelle tentative d'assassinat par la main des Philistins. Finalement, il offre Merab à quelqu'un d'autre. Au verset 25, il nous est dit, Saül dit au sujet donc de son autre fille, Michal: « Vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. À nouveau, un complot pour le faire tuer par la main des Philistins. Chapitre 19, verset 1. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. chapitre 19 toujours, mais au verset 9. « Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel sur Saül, qui était assis dans sa maison, fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui. Et Saül frappa de sa lance la paroi. » Toujours au chapitre 19, verset 11. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Chapitre 19, toujours verset 20 à présent. Et Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à sa tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes, au lieu d'attraper David. On en fit un rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Et l'en envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Ils oublient David. Alors Saül alla lui-même à Rama, et arrivé à la grande citerne qui est à Sécou, il demanda « Où sont Samuel, David ?» On lui répondit « Ils sont à Najoth près de Rama. » Et il se dirigea vers Najoth près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée. Là encore, il oublie de saisir David. Chapitre 20, le verset 30. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit « Fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Voilà encore Saül qui réclame la mort de David. Chapitre 23 à présent, au verset 8, David vient de délivrer Keïla, une ville qui appartenait à Israël. Et Saül monte contre Keïla et il demande à ce que Keïla vienne prendre David. Verset 8, chapitre 23, verset 8, il est dit « Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. » David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, « Apporte l'éphod. » Et David lui dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » Alors David dit encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül ?» Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Waouh, quelle trahison. Verset 14, « David demeura au désert, dans les lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne livra pas entre ses mains. » Verset 15, « David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. » Maintenant, dans le désert de Mahon, verset 26, Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. Et David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Et Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. Chapitre 24, je lis au verset 2. « Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici David est dans le désert d'En-Gedi. » Et Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Chapitre 26 à présent, au verset 2. Et Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes d'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Voyez-vous, c'est sans cesse, sans cesse, sans cesse que Saül a pourchassé David. Il est dans l'adversité pendant toutes ces années. Et regardez ce que David écrit dans le psaume 18. Je voudrais lire les premiers versets. Regardez cela, psaume 18. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Et il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu depuis devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. C'est dans l'adversité que l'on expérimente le secours de Dieu, le secours parfait, le secours remarquable de Dieu. Dans le milieu du 19e siècle, il y a eu une épidémie de choléra asiatique qui a commencé à faire des ravages dans la ville de Londres. Et Charles Spurgeon était pasteur, tout jeune pasteur dans cette ville de Londres. Il était encore célibataire et il consacra son temps à faire des visites. La maladie frappa de nombreux foyers. Il dit, une famille après l'autre m'appelait au chevet de ceux qui étaient frappés. Et presque chaque jour, je devais présider à un enterrement. Alors, livré à ce labeur sans relâche, il a bientôt été complètement épuisé, non seulement fatigué, mais il devenait lui-même malade. Et dans cet état d'abattement, il retournait un jour d'un enterrement, et il a remarqué une feuille de papier affichée sur la devanture d'un cordonnier. Et sur cette devanture, on pouvait lire les versets du psaume 91, versets 9 et 10, où il est dit « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Il dit « La foi s'appropria cette promesse, ce passage, et je me sentis en sécurité, rafraîchi, presque sain d'immortalité. » Et je continuais à visiter les mourants avec un esprit calme et paisible, et aucun mal ne m'atteignit. Rien ne peut nous atteindre sans l'autorisation divine. Rien. Ici, il s'agit d'une promesse faite à des croyants. Toutes les promesses sont accomplies en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Jésus-Christ, cette promesse est pour vous. Aucun malheur ne t'atteindra. On n'a donc rien à craindre. Mais j'ai fait cette semaine une étude sur la souffrance du chrétien. D'un côté, Dieu dit « Aucun mal ne t'atteindra », mais tout nous dit le contraire. On est sans cesse assailli par le mal. Comment réconcilier ces deux choses? L'histoire nous montre combien les chrétiens ont souffert, en particulier pour être chrétiens. On les a livrés aux lions dans le Colisée à Rome. On les met à mort encore aujourd'hui. C'est ce que je disais la semaine dernière au Pakistan. On met une famille à mort juste parce qu'ils sont chrétiens. Les chrétiens sont mis à mort depuis toujours. Et puis c'est aussi notre expérience quotidienne, les chrétiens sont atteints par le cancer. Les chrétiens connaissent des accidents de la route. Les chrétiens connaissent toutes sortes de souffrances liées ou non à leur condition de pécheur. Comment peut-il dire « aucun malheur ne t'arrivera » ? Notre difficulté est avec la définition du malheur. Notre difficulté est avec la définition du mal. Qu'est-ce qui est mal ? En Genèse 50, c'est le dénouement de l'histoire de Joseph. Au chapitre 50 et au verset 20, voilà ce que Joseph dit. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Qu'est-ce que c'est le mal ? Quel est le contraire du mal ? Le bien. Mais qu'est-ce que c'est que le bien ? Dans notre verset, il dit, le bien, c'est ce qui arrive aujourd'hui, savoir sauver la vie à un peuple nombreux. Le bien, c'est d'être sauvé. Le bien, c'est d'être réconcilié avec Dieu, et ça pour l'éternité. Ça, c'est le bien. Qu'est-ce que c'est que le mal ? C'est de ne pas être sauvé. C'est d'être perdu. C'est de n'avoir aucune assurance pour son éternité, pour son salut. Dans le psaume 91, si j'y reviens, il dit, verset 15, c'est la conclusion du psaume, il dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. » Ça veut dire que quand il dit « aucun mal ne t'atteindra », il ne parle pas de la détresse, puisqu'il dit ici, « Voilà, je le délivrerai au jour de la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai et je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Je lui ferai voir mon salut. Dieu, il a ça en tête. Notre bien à nous, c'est notre salut. C'est d'entrer dans sa présence et de jouir de sa présence pour l'éternité. Quoi qu'il t'arrive, si tu es un enfant de Dieu, rien ne peut nuire à ce qui compte vraiment, à ta vie et ton bonheur éternel avec Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre dans une parfaite confiance et une parfaite assurance que Dieu nous garde à l'abri sous son aile, comme dit le verset 1 du psaume 91. Ça ne signifie pas qu'aucune difficulté ou qu'aucune souffrance ne pourra t'atteindre, mais qu'elle ne portera pas atteinte à ta joie éternelle, à ta vie éternelle, à ton salut éternel. Au contraire, elle contribuera à l'aboutissement de ces choses. Elle est douloureuse peut-être, mais entre les mains de Dieu, elle n'est pas un mal dans le sens biblique du terme, mais un bien. Le chrétien qui comprend l'évangile et qui croit aux promesses de la Bible, pour lui, il comprendra cette promesse solide et absolue. Puisqu'il a fait de Dieu sa retraite, aucun mal ne lui arrivera. La douleur, oui. La souffrance, oui. La difficulté, oui. Mais aucun mal. Charles Spurgeon l'a expliqué ainsi, il dit « Il est impossible qu'un mal puisse atteindre l'homme qui est aimé du Seigneur. Ce qui est du mal pour les autres n'est pas du mal pour lui, mais seulement du bien en forme mystérieuse. » Parfois, on n'arrive pas à le comprendre, à saisir. Pourquoi cela ? Pourquoi ces souffrances ? Et d'ailleurs, ce n'est probablement pas le discours qu'il faut tenir à quelqu'un qui vient de connaître une perte terrible ou une grande souffrance. Là, il faut simplement pleurer avec celui qui pleure. Il dit encore, les pertes l'enrichissent, La maladie est son médicament, le reproche est son honneur, la mort est pour lui un gain. Aucun mal ne peut lui arriver, car tout est surmonté par le bien. Fin de citation. Voilà ce que David expérimente. Dans l'adversité, il a pu voir que Dieu est son secours, un secours remarquable. Et puis ensuite, il découvre son dessein admirable. Voyez-vous, c'est dans l'adversité que la réputation de David s'est forgée. Regardez à nouveau chapitre 18, verset 5. Il est dit « David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Et il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Sa renommée grandit. » Verset 30, il est dit « Les princes des Philistins partaient en campagne et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Et son nom devint très célèbre. » Au chapitre 22 et au verset 14, je lis encore cette parole d'Achimélec, le souverain sacrificateur qui a été massacré avec tous les autres sacrificateurs, à l'exception du jeune Abiathar. Et il dit au verset 14, répondant à Saül, il dit « Lequel d'entre nous, tes serviteurs, peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison ?» Voilà, sa réputation a été manifestée à la face de tous les serviteurs du royaume. Vous voyez, dans l'adversité, Dieu est en train de vous former. C'est dans l'adversité qu'on voit si un homme est fidèle. C'est dans l'adversité qu'on peut montrer le courage. C'est dans l'adversité qu'on peut montrer l'humilité ou la patience. Et Dieu veut manifester ainsi notre réputation. C'est aussi dans l'adversité que l'amitié de Jonathan s'est renforcée pour David. Regardez chapitre 19, verset 1, il est Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David. Versets 4 et 5, il est dit « Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. » Chapitre 20, verset 17, je lis « Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. » Verset 41, la deuxième partie du verset, les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » Au chapitre 23, je lis au verset 16, 23-16, « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu règneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien lui-même. » Voyez-vous, c'est dans l'adversité qu'on forge des amitiés. Des amitiés solides. C'est dans l'adversité qu'on voit ceux qui sont prêts à nous soutenir. Les proverbes disent « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Il dit encore dans les proverbes, chapitre 27, verset 6, « Les blessures d'un ami prouve sa fidélité. » Un véritable ami, c'est pas celui qui vous passe de la pommade constamment dans le dos. C'est celui qui est prêt à vous dire « Tu fais erreur, tu te trompes, tu t'égares. Mais je t'aime et je continuerai à t'aimer. » C'est aussi dans l'adversité qu'il s'est approché de Dieu. Et ça, c'est vraiment important de le voir. Il s'est approché de Dieu dans l'adversité et il a appris à lui faire confiance. Comment est-ce qu'on développe la confiance, la foi? C'est dans l'adversité, c'est quand les choses sont difficiles, quand on ne voit plus, quand on est dans le brouillard le plus complet. C'est là qu'on peut simplement mettre sa main dans celle de Dieu et lui faire confiance. À cette époque, David a composé de nombreux psaumes, les psaumes 34 et 56 qui chantent sa libération des mains des Philistins. Regardez, je vous lis quelques extraits, je ne peux pas m'empêcher. Hein, psaume 34, beaucoup des psaumes qui portent des titres et qui rappellent le contexte de où a été écrit le psaume, portent sur cette période où David est en fuite. Ici, c'est lorsqu'il contrefie l'insensé en présence d'Abimélec. Et regardez ce qu'il dit au verset 5, psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Voyez-vous, c'est dans l'adversité, il a cherché Dieu, il a été délivré, il y a quelque chose qui est entré dans son cœur. Il peut dire, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Au verset 18, il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voyez-vous, c'est par expérience qu'il a écrit ces choses-là. Il peut dire, mon rocher, ma forteresse, mon asile, mon protecteur, mon bouclier, mon refuge, tout ça c'est parce qu'il l'a expérimenté, comment ? Dans l'adversité. Ne perdez pas courage quand vous êtes dans l'adversité. Dieu est en train de faire une œuvre que vous n'auriez jamais soupçonnée, que vous ne lui auriez même jamais demandé de faire. Il vous pousse à vous réfugier en lui. Il vous pousse à expérimenter combien il est un Dieu fidèle, qui prend soin de son peuple, qui est bienveillant à votre égard. Et nous aide à lui faire confiance. Les psaumes 7, 54, 57, 142, ils appartiennent tous à cette période. Le psaume 52, il a été écrit quand David a appris les mensonges et la cruauté de Doeg, l'Édomite, qui l'a trahi, qui a massacré lui-même avec son épée tous les sacrificateurs de l'Éternel. Voyez-vous, c'est là qu'il a appris cela. La vie d'exil l'a obligé à se soumettre totalement à Dieu. Pendant cette vie d'exil, son âme a été trempée, la rendant ferme et puis souple. Il lui a donné l'occasion de développer les qualités de chef, le contrôle de soi-même, la maîtrise de soi, la douceur, la compréhension, la patience. Oh, je ne dis pas qu'il a réussi du premier coup, hein. Oh là, non, il y a pas mal de passages qui montrent qu'il n'a pas réussi du premier coup. Mais il a appris ces choses. Il les a apprises. Entouré de compagnons déchaînés et téméraires, il a appris à connaître les hommes. Et il a accumulé l'expérience sur la façon de les diriger. On pourrait encore ajouter que le plan, le dessein de Dieu, son dessein admirable s'est accompli envers David. Parce que c'est pendant cette période-là qu'il s'est constitué une armée. Il a fui tout seul. Et puis rapidement, d'autres se sont ajoutés avec lui. Abiathar, le seul sacrificateur, était avec lui. Et il avait l'éphod avec lui. Et c'est par lui qu'il cherchait l'Éternel. Et puis c'est là que les fils de Tseruja, ses neveux, Abishai notamment, vaillants hommes qui l'ont rejoint. Puis 400 hommes qui étaient là, des plus ou moins des voyous ou des brigands, et qui ont trouvé chez David un chef. Et puis le nombre est monté à 600. C'était toute une armée qu'il avait avec lui, avec laquelle il pouvait combattre. Voyez-vous, dans l'adversité, Dieu s'est formé des compagnons pour David. Et puis, il s'est aussi constitué un butin énorme dans les différentes batailles. Le butin était tellement gros que juste avant la dernière bataille qui où, dans laquelle va mourir Saül et Jonathan, il va pouvoir envoyer des biens à tout Israël. Et puis, il s'est trouvé aussi une femme vertueuse. Pendant cette période-là, 1 Samuel 25, il a rencontré Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Belle et de bon sens. Une perle. Le plan de Dieu, il était bon. Le plan de Dieu, il était admirable. Son dessein était parfait. Et dans l'adversité, Dieu a forgé l'une des plus belles âmes, un roi pour Israël. Il y a quelque chose d'extrêmement apaisant dans cette vérité, que Dieu accomplit son dessein admirable. Dieu accomplit son dessein admirable. On peut être troublé, on peut connaître toutes sortes de difficultés, mais ça n'empêche pas que Dieu accomplit son dessein. Dieu accomplit son dessein. Et puis enfin, David, dans cette période d'adversité, a compris, a découvert la justice incomparable de Dieu. L'auteur du livre, et je termine avec ces chapitres-là, l'auteur du livre de Samuel consacre une part importante du livre à trois événements apparemment anodins, mais qui sont extrêmement révélateurs. Le premier, on le trouve en 1 Samuel 24, dans la caverne d'En-Gedi. Le second, c'est au chapitre 25, avec Abigaïl et Nabal, son mari. Et puis le troisième, c'est au chapitre 26, dans la colline d'Aquila. Je reviens sur le premier épisode. Saül traque David et tous ses gens dans le désert, jusque dans les coins les plus reculés. Il arriva que Saül entra dans une caverne. Il est dit, ça c'est au chapitre 24, verset 4, il est dit, Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Et il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là, il se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. L'expression pour se couvrir les pieds, c'est une belle expression pour décrire la satisfaction d'un besoin pour lequel il faut s'accroupir et baisser son vêtement sur ses pieds. Vous voyez un peu la chose. Or, David et ses gens, ils sont au fond de la caverne. Saül, il est tout seul. Et il se place dans cette position de vulnérabilité extrême, si je peux dire, tournant le dos à David et à ses hommes. Et au verset 5, ses hommes lui disent, mais voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. David reconnaissait que l'Éternel lui-même avait établi Saül comme roi d'Israël. Et que c'était à Dieu que le jugement et le retrait de Saül devaient être laissés. Il était hors de question pour lui de s'approprier le trône. Il était hors de question de se faire justice lui-même. Et dans cette situation-là, où pour ainsi dire, voilà, son ennemi, celui qui le sépare du trône est là à sa portée. Plutôt que de lui couper le pan du... Il aurait pu lui couper là. et tout était réglé. Mais David, il sait que Dieu est juste. Même de couper le pan de son manteau, ça le trouble, parce que le manteau, hein, on l'a déjà vu, c'est le symbole de la royauté. C'était déjà limite. C'est comme s'il portait déjà la main sur la royauté. Mais il le fait pour montrer à Saül sa loyauté envers lui. David se confie dans le Dieu qui juge parfaitement et qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dans le verset 24, dans chapitre 24, verset 12, il dit, Saül est reparti, il dit « Vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Voyez-vous l'assurance dans le cœur de David? Dieu est juge. Lui seul est juge et il juge parfaitement. Et il rendra sa justice parfaitement. L'autre épisode, au chapitre 26, je fais un petit bond, je reviendrai sur le 25 après. Oh, Saül, il avait promis, juste après cela, je lis verset 17 peut-être, dans le chapitre 24, verset 17, « Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ses paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura, et il dit à David, « Tu es plus juste que moi. » Car tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Voyez-vous, même Saül reconnaît la chose, mais Saül ne tient pas parole. Et il a repris sa traque. Cette fois-ci, dans le chapitre 26, il campe et David le voit en train de camper au milieu de son armée. Il est là au milieu, il y a Abner à côté, il a planté sa lance, il y a la cruche d'eau pour... Et puis, David dit à ses hommes, « Est-ce qu'il y en a un qui vient avec moi faire une visite à Saül ?» Et puis là, de la nuit, il traverse tout le camp. Il arrive devant Saül. Abishai, il n'en peut plus. Tout le monde dort. Il dit, « Laisse-moi prendre sa lance, je le transperce. » Terminé. Et David dit, « Non, on ne va pas faire ça. » Prend sa lance, la cruche, et on sort du camp. Et c'est ce qu'ils font. Ils sortent. Et puis là, ils montent sur la montagne. Et puis ils commencent à crier à Abner. Abner, c'est le chef de l'armée d'Israël, le lieutenant de Saül. Et lui dit, c'est pas bien Abner, tu ne veilles pas sur le roi. Puisque j'ai pu prendre sa lance et sa cruche. Et à ce moment-là, Saül se réveille. Il réalise que David, à nouveau, avait l'occasion de le transpercer. Et puis, même, il reconnaît sa faute. Et au verset 22, chapitre 26, verset 22, il dit, David répondit, « Voici la lance du roi, et que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Oui, au jour voulu par Dieu, Dieu a mis un terme à la vie de Saül, l'a fait tuer sur le champ de bataille. Le lendemain, David était roi. Pendant toutes ces années, David a fait confiance à la justice de Dieu. Dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit ceci, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Un jour ou l'autre, vous serez critiqué. Un jour ou l'autre, vous serez attaqué ou calomnié. Un jour ou l'autre, vous serez trompé, vous serez oublié, où vous serez lésé. Dans ces circonstances, la première réaction qui nous vient, c'est, en tout cas dans mon cœur, c'est de rétorquer, de critiquer à mon tour, d'accuser, de blesser, bref, de me venger. Et c'est aussi ce que David avait pensé faire avec Nabal. Et ça, c'est le troisième épisode, chapitre 25, 1 Samuel 25. Et je trouve ça intéressant que, tant qu'il s'agissait de Saül, du roi, David, il était hors de question qu'il mette la main sur le loin de l'Éternel. Mais là, Nabal, c'est un riche propriétaire. Son nom, ça signifie « fou ». Et il est fou, insensé. David se présente un jour devant lui, il envoie ses hommes parce que il a besoin de nourriture, de vivre. Et puis Nabal est en train de faire tondre ses troupeaux, c'est-à-dire c'est le moment où on récolte, si on peut dire, pour le berger. On mange, il y a de la nourriture en abondance. Et David dit, écoute, pendant que tes troupeaux paissaient un petit peu partout dans les campagnes, on n'a jamais rien pris pour nous. Au contraire, on a même veillé et protégé tes troupeaux. Aujourd'hui, on a besoin d'un petit peu de nourriture. Est-ce que tu veux bien nous partager? Là, tu es dans l'opulence. Et le Nabal, le fou, il lui dit non. Malade, lui, je ne vais jamais rien lui donner. Et là, la Bible dit, regardez au chapitre 25, verset 13. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. L'intention de David ici, c'est de se faire justice, de tuer cet homme, de le massacrer, et puis de manger et de se restaurer lui et tous ses hommes. Heureusement, il y a Abigail, la femme de bon sens de Nabal. Et là, quand elle apprend que David et tous ses hommes sont en train de monter pour massacrer la famille de Nabal, elle vient au-devant de lui avec des vivres et puis avec des paroles de bon sens. Et elle empêche David de commettre cette folie. Elle lui dit, est-ce que le jour où tu seras roi, est-ce que tu seras fier d'avoir massacré cet homme? Ou est-ce que ta conscience elle te tourmentera. Alors ne fais pas ça et confie-toi en Dieu. T'as pas besoin de le tuer, je vais te donner un peu de nourriture. Et c'est ce qu'elle fait. Vous savez, il y a toujours une autre voie que celle de la vengeance. Il y a toujours une autre voie que celle de l'orgueil. C'est celle de l'évangile. Et c'est celle-là que lui a rappelé Abigail par son attitude et puis par ses paroles. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 19, je lis. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous savez quoi ? La justice de Dieu s'est accomplie sur Nabal. Le lendemain, il était mort. David ne l'avait pas touché. Il s'est confié en la justice de Dieu. Il a compris que la justice de Dieu, elle est parfaite. Elle est incomparable. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, nous aussi. Dieu juge, et il juge parfaitement Nabal et Saül et tous les autres. Et comme David le répète à Saül, il dit, il jugera entre toi et moi. Chacun de nous, on rendra compte devant Dieu. À la fin de cette période d'exil, je termine, une période de fuite, de combat, de souffrance, de difficulté, qu'est-ce que David dit ? Et je reprends le psaume 18. Verset 2, voilà ce qu'il dit. À la fin de l'adversité, à la fin de toutes ces années difficiles, quel est son sentiment ? Qu'est-ce qui sort de son cœur ? L'amertume ! Non. La colère ! Non plus. Parce qu'il a appris le secours remarquable de Dieu. Parce qu'il a appris son dessein admirable au sein de l'adversité. Parce qu'il a appris la justice incomparable de Dieu. Il dit, je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, ma force. C'est magnifique. C'est magnifique. Comment parlerez-vous lorsque Dieu vous délivrera de toute difficulté, de toute souffrance ? Qu'est-ce qui sortira ? Les premiers mots qui sortiront ? Je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, mon Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. Parce que tu m'as secouru au travers des plus grandes difficultés. Parce que tu as réalisé ton dessein merveilleux dans mon cœur au travers de cette même difficulté. Parce que tu m'as montré ta justice. Elle est parfaite. Et c'est ce que nous voulons, nous aussi, apprendre à dire, Seigneur, Seigneur, je t'aime. Parfait. toutes tes œuvres sont parfaites. Prions Dieu. Ô notre Dieu, nous te remercions, parce qu'au travers de toute la vie de David, tu nous enseignes que l'adversité, Seigneur, elle est ton instrument pour te révéler à nos cœurs. C'est dans l'adversité que tu as révélé ton secours, ta fidélité, ta puissance, ta grandeur. C'est aussi dans l'adversité que tu as révélé ton dessein si merveilleux, notre transformation à ta ressemblance, l'accomplissement de tes plans bienveillants. Et puis, c'est aussi dans l'adversité que tu nous pousses à nous confier en toi pour la justice. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous revêt de ta justice. C'est parce que tu es mort à la croix pour nous que nous pouvons être déclarés justes. C'est seulement à cause de ton œuvre que l'on peut paraître un jour devant toi saint et irréprochable. C'est seulement à cause de Jésus-Christ mort à la croix qui a connu la plus grande adversité qui soit que nous puissions jouir éternellement de ta présence, de ta consolation, de ton salut, de ta gloire. Ô Seigneur, révèle-nous encore ta personne au sein de nos difficultés, au sein de l'adversité, de sorte que on puisse nous aussi dire et chanter comme David, « je t'aime de tout mon cœur, tout est bien. » Amen. Amen.